Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Univox.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept-là de mixité sociale ?
Ça, c'est une bonne question.
On n'est pas que dans une crise du logement. C'est-à-dire, au départ, c'est une crise économique, c'est une crise de l'emploi, c'est une fragilisation financière, notamment de nombreux ménages.
Oh putain, c'est vraiment des HLM de merde ici. Faut vivre donc je me tire.
28 minutes pour comprendre le logement social à Mulhouse et en France.
Il y a une histoire du logement social à Mulhouse. Effectivement, il y a une tradition. Quasiment les premiers bailleurs sociaux de France, effectivement, sont nés en Alsace et à Mulhouse.
Il se trouve que l'un des patrons les plus en vue de la société industrielle, il s'appelait Daniel Dollfuss Ausset, dans les années 1840, avait effectué un déplacement au Royaume-Uni et il a découvert là-bas des cités ouvrières composées d'un certain nombre de cottages. Il s'est dit, ça m'intéresse, je vais me procurer les plans, je vais proposer ça à la société industrielle de Mulhouse. Et il crée la société mulhousienne de construction ouvrière, la SOMCO.
SOMCO est un bailleur social.
Société des cités ouvrières de Mulhouse.
Le plus vieux bailleur social de France. C'est une société qui a été créée il y a 165 ans, en 1853, par les patrons mulhousiens. Patrons philanthropes qui voulaient loger dans de bonnes conditions leurs salariés, les ouvriers qui travaillaient à l'usine, notamment l'usine DMC.
Ces solutions étaient bien sûr humanitaires, philanthropiques, mais elles étaient aussi intéressées parce qu'il s'agissait pour eux de conserver les meilleurs ouvriers et éviter qu'en cas de crise, ils quittent Mulhouse. Or, à partir du moment où ils devenaient propriétaires d'un logement, ils étaient attachés à Mulhouse.
L'innovation vient ici de ce qui a été appelé le carré mulhousien. Alors, le carré mulhousien, il se voit sur ce plan, qui est un plan de la cité ouvrière de Mulhouse. C'est aussi régulier qu'un motif de tapisserie. La maille élémentaire, si vous voulez, la molécule constitutive de ce motif, eh bien, c'est un carré de jardin au centre duquel se trouve une maison.
Et ce jardin est un élément essentiel parce qu'il apporte un supplément de revenus en permettant de se nourrir au moins partiellement. Et puis, à partir du moment où vous travaillez dans le jardin, pendant vos moments de loisirs, ça vous évite d'aller traîner pour boire.
Alcool, alcool. Univox.
Un carré de jardin au centre duquel se trouve une maison avec un toit à deux pans, on appelle ça un toit en bâtière. Et chacune de ces maisons étant divisée en quatre parties, donc on a quatre quarts de maison. Chaque quart est attribué à une famille ouvrière.
On avait une société locale qui trouvait des solutions locales, alors qu'actuellement, donc, c'est un système national. Au XIXe siècle, la mainmise de l'État auprès de patrons libéraux était exclue. N'entrait pas n'importe qui dans la cité. Il fallait avoir déjà, au départ, quelques moyens, puisqu'il fallait payer une somme minimum. Cette somme, généralement, les ouvriers l'avaient, ne serait-ce que parce qu'ils étaient originaires de la campagne où ils possédaient l'un ou l'autre bout de terre. Donc ça, c'est un premier tri. Ensuite, n'entrez pas dans ces cités des gens qui n'éduquaient pas leurs enfants. On insistait beaucoup là-dessus. Si les enfants n'étaient pas scolarisés, donc ils étaient exclus de la cité.
Moi, j'avais un grand-père qui travaillait dans les mines de potasse. Alors, effectivement, vous aviez les maisons des mines, l'école des mines, la pharmacie des mines, le téléphone payé par les mines. Il y avait vraiment un petit peu une prise en charge globale de la personne, du ménage, du salarié finalement et de son environnement.
Alors il y a bien sûr la notion de contrôle. La notion de contrôle, et Engels a très vite critiqué le système de la cité, puisque en fait à partir du moment où vous payiez un remboursement de crédit, vous étiez bloqué. Donc vous étiez quelque part contrôlé effectivement par le patronat. Et tout ça s'est fait dans un cadre philanthropique, paternaliste, pourquoi pas, mais en fait le but c'était de réussir à faire de l'industrie mulhousienne une industrie efficace.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Et à Mulhouse, des logements sociaux, il n'y en a pas qu'à la cité ouvrière. Direction Les Coteaux, zone à urbaniser en priorité. On est en 1965 et les équipes de l'ORTF couvrent la construction de ce qui deviendra un des plus gros quartiers de Mulhouse avec aujourd'hui près de 16 000 habitants.
Nous sommes sur l'immeuble du lycée technique d'État en pleine ZUP, la zone à urbaniser en priorité. Monsieur May, vous êtes chargé des services techniques. Actuellement, je crois, au fond, juxtaposé à la ville de Mulhouse, vous avez créé une autre petite ville.
Exactement. D'ailleurs, lorsque les constructions seront achevées, cet ensemble comportera 3 500 logements. Donc pour une population de 15 000 habitants environ.
Cette ZUP a débuté en quelle année?
En 1960-61, les projets remaniés, puisqu'il fallait les présenter à différentes instances, mais les premières réalisations ont commencé en 1962-63.
On peut dire que l'urbanisme mulhousien est un peu à l'avant-garde. À votre avis, à quoi cela tient-il?
À l'avant-garde, qu'est-ce que vous voulez? Nous faisons le maximum, puisque nous avons été obligés de développer cette ville depuis quelques années.
Monsieur Kessler, vous êtes architecte en chef de la ville de Mulhouse. Quels sont les problèmes les plus importants que vous avez eu à résoudre?
Les problèmes sont des problèmes d'équipement et de coordination de ces équipements dans le temps.
Peut-on parler d'un système de construction particulier à cette ZUP?
Bien sûr. Il a fallu, car quand on groupe 3500 logements sur un espace relativement restreint, il faut construire en hauteur.
Eh bien, sur le quartier des Coteaux, vous avez des tours qui sont des logements privés, qui sont des copropriétés. Tout ce qui est Peuplier Camus, Nation, Delacroix, c'est pas que du logement social. Pour certains, c'est des logements entièrement privés. On ne construit plus aujourd'hui de tours et de bars, si vous regardez. On va construire des petits immeubles qui ont 2, 3, 4 étages. Et pour certains, si vous n'y apposez pas la plaque d'un bailleur social, vous n'arriverez pas, parfois, à me dire si c'est un logement privé ou un logement social. Ce que je veux dire par là, c'est vrai que c'est qu'on a parfois une déformation un petit peu, on a une image connotée du logement social qui s'apparente à la tour et à la barre, mais pas aussi parce que ça a été un petit peu le mode de développement principal du logement social dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Après la guerre, quand il a fallu loger les salariés des industries qui naissaient, quand il a fallu reconstruire les logements après la guerre, on a eu ce modèle un petit peu du développement rapide par des tours et des barres, et des habitations à bon marché qui sont devenues les HLM ensuite.
S'ils aiment bien jouer à Tetris, ce sera top pour eux. Mais moi, rien de spécial à dire. Je veux dire, tout le monde connaît les grands blocs comme ça, il y en a partout en France.
J'habite depuis 15 ans, ici même. Ici là, sur ce banc. Je suis posé là depuis 15 ans.
Non mais. Écoute, ma mère, vu qu'elle est venue ici dans les années 60 et elle habite à la ZUP, ouais, ça fait vraiment 40-50 ans que c'est là, au moins. C'était une des premières.
Écoute, ils ont fait une petite peinture au bout de ce bloc là.
À l'intérieur, je pense qu'ils ont fait aussi un peu de peinture, je sais pas. Mais rien de bien folichon. Ah si, ils ont. Tu vois là-bas les blocs blancs? Avant, ils avaient une couleur beige bizarre, là c'est tout neuf. Mais ici, non, y a rien de neuf encore. Ce que je peux dire, c'est que c'est la troisième ou deuxième plus belle ZUP de France.
Ils ont fait quand même un vote, tu sais, ou je sais pas, parce qu'il y a des espaces verts, c'est joli, tu vois. Alors qu'ailleurs, il n'y a que du béton. Je suis allé à Paris, j'ai vu d'autres cités, tu vois. Ici, il y a des arbres, il y a de l'herbe, c'est un peu plus joli, c'est un peu plus espacé. C'est une des plus grandes et une des plus jolies de France. Et ça, tu peux le trouver sur le net, si jamais.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe une nuit dans les caves avec son beretta, traque le môme qui chouave, le pinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de pincu. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con, putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la bombe du huitième. Putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la bombe du huitième. Putain, ce
Univox.
Actuellement, il y a un système qui définit globalement le loyer d'un logement social en fonction de son type de financement. C'est-à-dire ce qu'on appelle le PLAI, le PLUS et le PLS. On a le PLAI qui est le logement le plus social, on va dire. Où vont pouvoir se loger dedans des ménages qui gagne moins d'un SMIC hein, par mois pour un célibataire, voire même un petit peu en dessous. Ensuite, on a le logement social qu'on appelle classique, entre guillemets, qui est le financement PLUS, où là, on va pouvoir loger, par exemple, un célibataire bah, qui va gagner entre un SMIC et à peu près 1700, 1800 euros net par mois. Et on a également ce qu'on appelle le logement intermédiaire, qui est un petit peu plus élevé que le PLUS et qui s'adresse à des ménages voilà, qui ont des ressources qui se situeraient, par exemple, pour un célibataire, entre 1800 et 2200, 2300 euros net par mois.
Selon le type de logement, ça va évidemment influer sur le type de peuplement. C'est vrai qu'il existe, alors, pour une agglomération comme celle de Mulhouse, un plan local de l'habitat par lequel toutes les communes ensemble s'engagent à construire un certain type de logement HLM au regard des besoins. Donc, il y a des incitations légales, financières et de programmation qui poussent à ce qu'il y ait davantage de logements sociaux. Et c'est vrai qu'il y a une progression, même si c'est encore pas toujours suffisant au regard des besoins.
Nous, on n'a pas fait beaucoup de PLAI, on a beaucoup fait de plus. On nous force à faire du PLAI parce qu'on touche des subventions. Et ça répond aussi à une demande, parce que c'est des gens très pauvres. Le problème, c'est que je trouve qu'on mixe pas assez. Après, si on se consacre à ce type de logement, on va produire que ça. Or, on veut faire de la mixité. C'est pas que du logement très social qu'il faut faire. Il faut aussi faire du logement social.
Parce qu'aujourd'hui, en fait, la loi SRU qui vous oblige à faire 20 à 25% de logements sociaux, elle vous impose pas le type de
logement. Le type de logement n'est pas obligatoire. On a juste un certain quota à respecter. Et si une fois qu'on a respecté ce quota de logements très sociaux, on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est un minimum de, grosso modo, entre 25 et 30% de logements très sociaux qu'il faut faire dans l'opération. Alors nous, on fait le minimum, on préfère faire du logement classique. Quand on est au chômage et qu'on n'a pas grand-chose, c'est plus difficile. Et si on concentre ses ennuis et une population qui est que dans cette catégorie, au même endroit, c'est pas bien.
On l'aura compris, la SOMCO n'est pas fan des logements très sociaux.
Salaud de pauvre.
La raison, ça ne favoriserait pas la fameuse mixité sociale. De son côté, Odile Fournier, sociologue et membre de la fondation Abbé Pierre, dresse un tout autre constat.
Il y a une commune de l'agglomération mulhousienne, mais que je ne nommerai pas parce qu'on ne va pas, et pourtant c'est en sa faveur, qui dans les dernières constructions HLM, elle a fait moitié PLS, moitié PLAI, c'est-à-dire qu'elle a été au-delà des pourcentages recommandés dans le plan local de l'habitat, et ça fonctionne quoi, c'est une mixité sociale assez importante.
Alors la mixité sociale est un terme qui n'a jamais été défini par aucun texte.
Alors, est-ce qu'on veut vraiment la mixité sociale? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Ce sera la question qu'on va se poser. Tout le monde est favorable à la mixité sociale. Est-ce que ça vous paraît juste, Thomas Guénolé?
La mixité sociale, les pauvres sont pour. C'est normal, hein. S'ils en profitent, ils vont avoir accès à des meilleures qualités de logement, de services, etc. Les classes moyennes inférieures sont pour. Une partie des classes moyennes supérieures sont pour, par conviction idéologique. Et tous les autres, ils sont contre. Je voudrais rappeler que quand la gauche arrive au début des années 80, elle est en train de lancer l'impôt sur la fortune qui attaque leur patrimoine, pas de manifestation. Elle fait des dévaluations en série qui attaquent leur épargne, pas de manifestation. Elle augmente les impôts, toujours pas de manifestation. Elle annonce, projet de loi Savary, désormais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rendre plus difficile de mettre entre vos gamins dans leurs écoles privées, dans l'entre-soi, 1 million de personnes dans la rue.
Dans le cadre d'entretiens privés, sous couvert d'anonymat, les acteurs en question sont tout à fait prolixes sur la question et vous expliquent de façon très claire qu'ils ont en tête un schéma dans lequel l'équilibre, la mixité sociale, sera réalisée à condition que des Blancs y soient en nombre suffisant et si possible, y soient majoritaires. Donc l'horizon qui est assigné à la politique de la ville à travers cet objectif de mixité sociale, c'est un horizon d'invisibilisation de populations appartenant à des groupes minoritaires.
Alors justement, vous parlez des quartiers, des ghettos. Il y a une vidéo qui fait polémique. Vous étiez à Évry, dans l'un des quartiers d'Évry où se déroulait une brocante. Et en clair, vous avez dit en substance... Il n'y a pas assez de blancs.
Vous me donnez quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos.
Je pense que quand on parle du déficit de mixité sociale en France, quand on le décrit assez régulièrement depuis ces dernières années, on parle toujours des mêmes. C'est-à-dire que c'est les pauvres, c'est les classes les plus défavorisées qui sont entre elles et qui sont confinées, qui sont dans des ghettos. On a parlé d'apartheid. Mais on parle jamais de la non-mixité sociale des classes les plus favorisées parce que c'est pas un problème. La mixité sociale, le manque de mixité sociale, il devient un problème puisque la grande misère va toujours mener à, on va dire, une menace de la paix sociale puisque à un moment, ça explose.
En France, si l'on prend en compte tous les types de logements sociaux, ce sont à peu près 67% des ménages qui y sont éligibles. Alors des logements sociaux pour qui ? On demande comment, à qui, combien ça coûte ? Luc vous explique tout.
Oui, le demandeur doit être français ou étranger, admis à séjourner en France. Ses ressources annuelles imposables ajoutées à celles de tous ceux qui vivront dans le logement ne devront pas excéder un certain plafond, qui varie selon le type de logement social, sa localisation et la situation familiale du demandeur.
Et comment on fait pour trouver un logement HLM ?
Le plus simple pour trouver un logement social, c'est de se rendre sur la plateforme bienveo.fr.
bienveo.fr.
La demande peut aussi se faire auprès d'un bailleur social ou de votre mairie. Vous pouvez aussi le faire sur internet www.demande-logement-social.gouv.fr.
Et après avoir fait la demande, on attend combien de temps avant la réponse ?
Ça dépend. Selon les acteurs du logement, Mulhouse est une ville où le marché est moins tendu que dans d'autres villes de la même taille. Ici, le temps d'attente est en moyenne de 9 mois, mais cela reste une moyenne.
Et sur quoi s'appuient les décideurs pour accorder ou pas un logement social ?
Eh bien, officiellement, il existe plusieurs critères qui font que certains dossiers sont prioritaires. Les bénéficiaires d'une décision favorable au DALO, le droit au logement opposable, ceux qui n'ont pas de toit, les prostituées, ceux qui vivent dans un logement indigne, les handicapés, les familles ayant à leur charge au moins un enfant mineur vivant dans un logement surpeuplé. Une fois la demande faite, vous recevrez la décision de la commission d'attribution. Si elle est favorable, vous avez 10 jours pour accepter ou refuser.
Et si c'est non ?
Si vous ne recevez pas d'offre de logement dans les délais fixés par le préfet, vous pouvez saisir une commission de médiation pour faire valoir votre droit au logement.
Merci Luc pour toutes ces informations.
À la suite, je félicite les gros bonnets d'illicite. Pas d'ingénieurs dans mon équipe. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux.
Quand tu veux.
Ambitieux, parfois vicieux. Tu dis que tu peux être le prince de la ville si tu veux.
Si tu veux,
où tu veux,
où tu veux,
quand tu veux.
C'est quand tu veux.
On vit en HLM les uns sur les autres. Et les superposés, j'ai rien connu d'autre. On a la rage, mais comment rester sage ? On vit en marge, en gros on est tous barges. Souvent les huissiers à ta porte font éruption. Si tu peux pas ton...
Univox. Et la réalité décrite par le rappeur Rimka en 1999 dans le morceau « Les princes de la ville » est encore une réalité aujourd'hui, comme le montre le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre.
Combien il y a de gens, de personnes touchées par le mal-logement ? Donc c'est quand même directement 4 millions et 12 millions fragilisés. Le surpeuplement, les logements indignes, la difficulté d'accès au logement, la difficulté de maintien dans le logement, les expulsions, etc. Et la Fondation Abbé Pierre est en train de travailler sur ce projet de loi là, qui n'est pas encore tout à fait élaboré, mais qui est en cours d'élaboration, qui va être présenté au Conseil des ministres donc le fin mars. La Fondation Abbé Pierre a violemment pris parti contre la baisse des APL. En disant, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas inflationniste, c'est l'allocation qui est la plus redistributrice, c'est absolument essentiel. Et les propriétaires HLM, si on baisse l'APL, ils ont moins de moyens. Moins de moyens pour construire, moins de moyens pour entretenir le parc. ce qui va être économisé sur l'ensemble des aides au logement, sur l'ensemble des aides au logement d'ici 2020, correspond exactement à la baisse de l'ISF, c'est-à-dire au fait qu'on baisse l'impôt sur la fortune pour les gens qui ont les moyens de contribuer quand même largement à la politique de solidarité.
Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement veut faire des économies sur son budget, ce qui est louable, et a décidé de baisser l'APL des locataires du logement social. Ce qui est un peu moins louable, mais bon, on peut l'entendre, mais pourquoi juste sur le logement social? On peut imaginer que ce soit tous les locataires à travers la France, pas seulement dans le logement social. Mais dans le logement social, c'est plus facile parce qu'on va demander aux bailleurs de faire une réduction de loyer à hauteur, voire même plus, de la baisse de l'APL pour les locataires. Et c'est en fait les bailleurs sociaux qui vont financer la baisse de l'APL. Qu'est-ce que ça va entraîner? C'est une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 8 à 10% sur les organismes. Pour la SOMCO, ça va représenter grosso modo 2 millions d'euros sur 26 millions. Ben, c'est 100 en moins pour faire de la réhabilitation, 100 en moins pour faire de la construction neuve, 100 en moins pour faire de la maintenance des logements. Parce que l'argent, on ne le génère pas spontanément. Si on nous enlève le chiffre d'affaires, comme dans toute entreprise, eh ben, on a moins à la fin du mois pour pouvoir faire ce qu'on doit faire. L'argent qui est dégagé dans le monde HLM, il est réinvesti. Il n'est pas distribué à des actionnaires. Donc si on en enlève ça, eh ben on ne peut plus faire.
Et sur la loi Elan, donc, il y a un certain nombre de mesures qui sont de principe intéressantes. Par exemple, simplifier un certain nombre de normes de construction pour construire mieux, etc. Mais il y a des mesures où la Fondation Abbé Pierre est extrêmement réservée, voire opposée. C'est par exemple le bail de mobilité de 10 mois, parce que ça n'apporte rien à ce qui existe déjà. On ne comprend pas trop ce que ça apporte, si ce n'est que ça va fragiliser davantage les locataires que les propriétaires. Il sera possible pour un locataire de se voir proposer un bail de 10 mois avec une caution mais sans dépôt de garantie, et au bout de 10 mois, il peut partir, un meublé. Hein. Donc ça va toucher les étudiants, etc. Mais ça existe déjà. On ne comprend pas ce que cette mesure apporte en plus, si ce n'est que le propriétaire, lui, va être aussi, va avoir plus facilement la possibilité de mettre fin au bail du locataire et de lui faire plusieurs bails successifs. Enfin, il y a une précarisation des locataires qui est redoutée par la Fondation Abbé Pierre. Il y a l'ensemble des mesures qui concernent le mouvement HLM qui inquiète la Fondation, parce que c'est une baisse de moyens. Par exemple, on va inciter les HLM à vendre des logements aux locataires. Alors d'une part, c'est des locataires qui sont déjà très souvent en situation précaire. S'ils achètent le logement et s'ils composent une copropriété, comment ils vont se débrouiller dans cette copropriété qui rajoute des charges?
L'idée, c'est de vendre du patrimoine ancien, dégager une plus-value qui permet de construire du patrimoine neuf. Alors c'est une vieille idée, on nous a déjà un peu forcé la main en nous disant « vendez 1% de vos patrimoines tous les ans ». On se rend bien compte que ça ne marche pas sur la France, il se vend 8000 logements sociaux sur les 4 millions ou les presque 5 millions de logements. Donc ça ne marche pas. Il y a un risque aussi, c'est-à-dire que quand on va vendre à des populations qui ne sont pas aisées, quand on devient propriétaire, là pour le coup il y a en effet des charges dans la copropriété qu'il faut assumer, qu'on n'a pas quand on est locataire. Et on risque de tendre vers des copropriétés qui sont dégradées, en situation financière difficile et qui se dégradent. Et là, ça devient encore pire à gérer, puisqu'on n'a pas la main dessus. Et on a quelques cas, quelques exemples sur Mulhouse ou Strasbourg, où on voit apparaître des copropriétés fragiles. À terme, ça peut être très dangereux.
Pourquoi financer le social avec du social? Mais c'est aussi du patrimoine social qui va disparaître, alors qu'on a besoin de plus de logements sociaux. Donc...
On nous dit, faites des regroupements, vous allez économiser. Enfin, c'est n'importe quoi, puisqu'on se rend bien compte que plus on est gros, moins ça marche, plus ça coûte cher. Le coût de fonctionnement, toutes les statistiques montrent que quand on est une petite structure, ça coûte moins cher. Moins cher pour l'entreprise et moins cher pour le locataire.
D'une part, on a des mesures qui nous paraissent contradictoires, c'est-à-dire que d'une part, on a ces économies réalisées par l'État dont je viens de parler, d'autre part, il y a un plan que le gouvernement est en train de soutenir, qui s'appelle le plan logement d'abord, qui doit permettre de loger très vite les gens qui sont à la rue. Et c'est un plan extrêmement intéressant, qui met tout le monde à travailler, hein, que ce soit les collectivités locales. Ici, par exemple, la ville de Mulhouse est candidate à ce plan. Tous les bailleurs privés et sociaux, les associations qui s'occupent des personnes en difficulté, etc. La CAF, enfin... Mais nous, on est juste un petit peu inquiets sur les moyens qui seront donnés. Alors, ça ne doit pas coûter ça, il y aura un peu d'argent, ça ne doit pas coûter plus cher, on doit convertir des places d'hébergement en logement. Bon, moi on est un petit peu sceptique sur les moyens, mais l'ambition politique et la volonté politique, elle est bonne. Hein. Est-ce que ça va résoudre suffisamment l'ensemble des besoins et des problèmes, depuis l'hébergement d'urgence jusqu'au logement? Et puis d'un autre côté, on est en train d'entamer le modèle global du logement social. Qu'est-ce que tout ça va donner? En tout cas, c'est contradictoire.
On n'est pas que dans une crise du logement. C'est-à-dire, au départ, c'est une crise économique, c'est une crise de l'emploi, c'est une fragilisation financière, notamment de nombreux ménages, qui, avec des ressources diminuées, avec du chômage, avec des minima sociaux, effectivement, ont du mal à avoir un parcours résidentiel classique et qui ont du mal à se loger en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités. Ce que je veux dire par là, si on était dans un contexte économique plus favorable, c'est-à-dire si on n'avait pas eu toute cette conséquence depuis la crise de 2008, on tiendrait peut-être un discours très différent sur le logement social à Mulhouse et dans le Haut-Rhin. On n'est pas forcément... Attention, je dis pas qu'il n'y a pas de problématique de logement, bien au contraire. Mais je pense qu'on n'est pas dans une problématique du nombre de logements, vous voyez ce que je veux dire, d'un manque de logement social. Il y a un nombre significatif de demandes sociales qui sont en instance chez les bailleurs, mais il y a des délais d'attente qui sont nettement inférieurs à ceux d'autres départements ou d'autres villes. On n'est pas dans un secteur très tendu.
Le logement est un secteur tellement concurrentiel, traversé de tellement d'intérêts divergents, politiques, économiques, sociaux, financiers, que si l'État ne régule pas, ça va juste aggraver encore les problèmes, mais peut-être pas tout de suite, quoi. Hein. Alors, oui, on nous dit, mais si on fait plus de mobilité, on va faire telle et telle mesure parce que ça va faire que les gens bougent plus, ça marchera mieux, sera plus fluide. Ça nous paraît pas très cohérent, tout ça, quoi. Hein.
Rendez-vous donc fin mars 2018 pour la présentation du plan logement au Conseil des ministres. Nous suivrons ça avec intérêt. Nous remercions par ordre de passage Alexandre Probst, directeur de l'Agence départementale d'information sur le logement du Haut-Rhin, Pierre Fluck et Bernard Jacquet pour leur éclairage historique, André Girona, le président de la SOMCO, Ahmed pour son témoignage sur la Cité des Coteaux. Sur la question de la mixité sociale, vous avez pu entendre le sociologue Thomas Crisbaum, le politologue Thomas Guénolé et Maboula Samaoro, professeur de civilisation. Enfin, nous tenons à remercier Odile Fournier de la Fondation Abbé Pierre, dont vous pouvez retrouver le rapport sur fondation-abbé-pierre.fr.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.